Jésus.
Gloire à Jésus. Élevons encore la voix et bénissons-le pour ce moment. Bénissons-le pour cette soirée. Disons merci au Seigneur pour sa fidélité et sa grâce. Le Seigneur est fidèle. Il dit qu'il honore ceux qui l'honorent. Dis merci au Seigneur qui t'honore. Bénis et célèbre sa présence. Dis merci à Jésus pour sa fidélité. La Bible dit qu'il s'appelle fidèle, le témoin fidèle, l'amen, le véritable. Dis merci ce soir. Jésus qui est dit dans l'Apocalypse 3, 14, comme le témoin fidèle, comme le véritable. Dis-lui merci parce qu'il ne sommeille, ne dort, ta vie entre ses mains. Il te garde, rends-lui grâce. Nous parlons ce soir, nous enseignons sur le thème « Un nouveau vêtement ». Dis au Seigneur, au thème de cet enseignement, qu'il te revête. Qu'il te donne un nouveau vêtement pour manifester son caractère et sa gloire dans l'univers entier. Père, merci parce que tu es présent ce soir. Remplis ce lieu de ta gloire, de ta présence. Remplis ce lieu de ta puissance, de ta gloire. Remplis-nous de toi-même et agis puissamment parmi nous ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assieds-nous bien-aimés. Je sens que ce n'est pas facile. Vu que Dieu nous donne le temps à la fin de cet enseignement, vous priez suffisamment pour cette pandémie, le coronavirus, n'est-ce pas? Je crois de tout mon cœur que c'est un projet qui vient droitement des antres de l'enfer pour déstabiliser l'humanité. Et les chrétiens vont pas voir les choses comme les païens. Ils comprennent qu'on trouve le temps pour prier sérieusement, pour que davantage le Seigneur se manifeste et se glorifie. Amen. Nous travaillons ce soir sur le thème « Un nouveau vêtement ». Le thème aura deux parties. Je vais introduire et demain on va continuer. Demain quelqu'un d'autre va continuer. Nous parlons d'un nouveau vêtement. Un nouveau vêtement. De manière générale, lorsqu'on parle du vêtement, il est question d'un objet, d'un tissu, de fourrure ou de fibre synthétique couvrant le corps et utilisé pour se protéger, se parer ou respecter les conventions sociales. Donc le vêtement, c'est ce tissu que nous mettons sur nous afin de nous protéger, de nous couvrir. C'est ça le vêtement sur le plan naturel. Le vêtement peut aussi traduire l'objet de la pensée, les attentes, l'état d'esprit. Donc, quand on dit un nouveau vêtement, on va plus toucher l'état d'esprit. Donc nous n'avons pas trop parlé du vêtement physique, sur le plan physique. La Bible dit que la nature nous enseigne les vérités, les réalités spirituelles. Donc il y a un vêtement physique sur le plan naturel, il y a également un vêtement spirituel. Donc dans le monde spirituel, dans le règne de l'esprit, il y a également un vêtement. Donc chacun de nous est revêtu d'un vêtement sur le plan spirituel. C'est de ce vêtement qu'on parle dans ce chapitre-ci.
Le vêtement.
Et aujourd'hui, on va toucher le mauvais vêtement. Parce qu'il y a le mauvais vêtement, il y a le bon vêtement. Donc demain, on va parler du revêtement, revêtir le bon vêtement. C'est demain qu'on parlera de ça. Donc aujourd'hui, on va simplement toucher le mauvais vêtement. Et j'insiste encore, le vêtement ici, c'est d'abord l'état d'esprit. C'est notre homme intérieur. C'est ce que les gens ne voient pas, mais c'est ce qui nous motive, ce qui pousse nos actions, motive nos actions. C'est ça le vêtement. Et quand vous allez lire l'Ancien Testament, on nous parle de plusieurs personnes qui étaient poussées par des choses qui ne devaient pas vouloir à Dieu. Et ce sont ces choses qu'on appelle le vêtement. On a parlé, par exemple, parlé ici du vêtement de Balaam pour commencer. Parce qu'on a dit que le vêtement révèle l'autorité, montre réellement exactement qui tu es. Et aujourd'hui, on commence par le vêtement de Balaam. Pour ceux qui ont lu l'Ancien Testament, Nombre 22 à Nombre 24, on nous parle de Balaam. Balaam, c'était qui? Qui est Balaam? Balaam, C'est un faux serviteur de Dieu.
En fait, Balaam, c'est un devin. Quelqu'un qui prophétisait, mais qui avait de mauvaises motivations.
La Bible nous dit que Dieu, que Balak, voulait maudire le peuple de Dieu. Il est parti appeler le devin Balaam qui vient maudire le peuple de Dieu. Dieu a clairement dit à Balaam, ne bouge pas, ne maudis pas ce peuple, c'est mon peuple. Je me suis choisi ce peuple-là pour révéler ma gloire aux nations. Mais quand on a apporté les présents, les cadeaux, de l'argent, Balaam a été influencé. Il est parti maudire le peuple.
Il a cherché à maudire le peuple. Donc Balaam signifie glouton. Balaam veut dire avaler.
Donc glouton, Balaam, c'est l'esprit de Balaam. C'est l'esprit qui anime tous ceux qui aiment posséder, qui aiment les biens matériels, qui peuvent substituer la volonté de Dieu au matériel. Donc quand quelqu'un est corrompt facilement un homme, quand quelqu'un ne peut plus servir Dieu, même dans son lieu de service, pour ceux qui ne sont pas des pasteurs, quand quelqu'un est corrompu, quand quelqu'un laisse la volonté de Dieu à cause d'un présent, il est animé de l'esprit de Balaam. C'est l'esprit qui nous amène à aimer le cœur. Or Balaam avait clairement reçu qu'il faut maudire le peuple de Dieu. Mais à cause des présents, à cause de l'argent, il est quand même parti maudit. Il a dit on ne sait jamais, peut-être Dieu va maudire ce peuple. Balaam représente les personnes qui sont à la fois les véritables serviteurs de Dieu et les véritables serviteurs de Satan. Donc Balaam recevait des visions de Dieu claires. Mais en même temps, il était prêt à faire la volonté du diable. C'est ça Balaam. Donc ceux qui servent simultanément Dieu et Satan. Il y a des hommes de Dieu comme ça. C'est ça, n'est-ce pas? J'ai reçu une femme un jour qui me disait, elle a reçu d'un prophète.
C'est une fois qui me disait, elle a reçu d'un prophète des prophéties authentiques en public.
Mais quand la femme était seule avec lui, il est passé à autre chose. Donc publiquement, il sert bien Dieu, mais en privé, il fait autre chose. C'est ça Balaam. Donc ceux qui servent simultanément Dieu et Satan. On a tellement de cas comme ça dans nos églises. Les gens qui suivent la chair prêchent le bon évangile, mais seuls dans le bureau font autre chose. C'est l'esprit de Balaam.
Tu vas dire les choses, parler de la sainteté de Dieu, parler de Dieu qui est contre l'impureté.
Mais seul dans le bureau, tu fais autre chose. C'est ça l'esprit de Balaam.
Balaam était un prophète simoniaque qui avait reçu de l'argent au roi Balak pour maudire les enfants d'Israël. Il connaissait ce que Dieu veut.
Il connaissait la volonté de Dieu. Mais parce qu'influencé par l'argent, il voulait maudire le peuple. Le passage dit qu'à plusieurs reprises, il a essayé de maudire, il n'a pas pu.
Lisez Nombre, je crois Nombre 22, 23, 24.
Quand il n'a pas pu, il a dit au roi Balak que ce peuple a sa demeure à part. Ce peuple de Dieu, c'est un peuple saint, un peuple mis à part pour révéler la gloire de Dieu aux nations. Mais entre il a dit quelque chose à Balak. On ne dit pas ça dans Nombre.
Mais pour bien comprendre, lisons l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, verset 14.
On peut tourner à Apocalypse 2, 14, ceux qui ont les Bibles.
J'aime qu'on voit quelque chose. Apocalypse 2, 14. Je vais rapidement lire pour nous tous. Merci.
Dieu dit ce que j'ai contre toi, tu as la doctrine de Balaam. Qui a fait comment? Qui a enseigné à Balaam de mettre un pied d'achoppement devant les enfants de Dieu pour qu'ils se livrent à l'idolâtrie et à l'impudicité? Quand vous lisez tout Nombre 22, 23, 24, on ne voit nulle part où Balaam a enseigné une mauvaise doctrine. Heureusement qu'il a essayé de maudire, puis il n'a pas pu. Maintenant, Apocalypse, j'aime avoir la révélation plus tard. Il va dire que Balaam a enseigné, a conduit le peuple dans l'impudicité. Maintenant, pour bien comprendre, ça lisez Nombre 25. Nombre 25, lisez le verset 1. Pour bien comprendre ce que Balaam a fait. Nombre 25, j'ai envie qu'on lise.
La force est en Christ, la force.
savez que Israël demeura à Sittim. Vous savez que pendant le séjour au désert, Israël allait de lieu en lieu. Lui se reposait et Sittim c'est une ville. Qu'est-ce qui est arrivé à Sittim? Le passage dit quoi? Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Qu'est-ce qui se passait au juste? Quand Balaam a essayé de maudire le peuple à plusieurs reprises, il n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti dire à Balak, ce peuple a sa demeure à part. Ce peuple est béni de Dieu, on ne peut pas maudire ce peuple. Mais si tu veux maudire ce peuple, envoie vers le peuple des prostituées, des filles de ton peuple. Si partent après ces filles-là, le Dieu qui déteste le péché va les punir, va les maudire. C'est ce qui s'est passé. Donc Balak a essayé de. Balaam a dit à Balak que non, c'est vraiment Dieu avec eux. Rien pour ce, tout ce qu'on va faire ne marchera pas. Envoie seulement vers eux les filles. Maintenant, on dit à Nombre 25, quand Israël arriva à Sittim, qu'est-ce qui s'est passé? Moab, le roi Balaam, envoie simplement ses filles, les prostituées. Et plusieurs enfants d'Israël se sont livrés à la débauche. Si vous continuez à lire la ligne Nombre 25, vous voyez que la colère de Dieu s'enflamma. Et Dieu a décidé de punir, de tuer le peuple, d'exterminer le peuple. Il a dit qu'on devait pendre tous les coupables au bois. Donc on devait pendre tous ceux qui avaient péché. Or, la doctrine de Balaam, ou le vêtement de Balaam, c'est le vêtement qui nous amène à contrecarrer la volonté de Dieu dans la vie des hommes. Quand tu es quelqu'un qui contredit la volonté de Dieu dans la vie des personnes, tu as en toi le vêtement de Balaam. Même les chrétiens qui sont dans l'église pour tendre les pièges aux autres, ils sont animés de l'esprit de Balaam. Tu sais que Dieu est avec telle soeur, Dieu avec elle dans ce qu'elle fait, mais tu fais tout pour ternir son image. Ça, c'est l'esprit de Balaam. Donc, quand Balaam envoie les prostituées, les enfants d'Israël ont commencé à se livrer à la débauche. Et avec le temps, quand il y a eu un métissage, Israël et les Moabites, ce qui a fait qu'avec le temps, les enfants d'Israël ont commencé à faire comment? À adorer les dieux de Moab. Ils sont devenus idolâtres. La doctrine de Balaam, c'est ce qui amène les gens de se détourner du Dieu véritable, de Jésus-Christ, pour adorer autre chose. Quand dans l'église, tu amènes les gens à aimer l'argent, à aimer les affaires, le business, le matériel, plus que Dieu, tu es animé du vêtement de Balaam. Qu'à côté de Jésus, on met quelque chose. C'est le vêtement de Balaam. Dans la famille, peut-être à l'heure peut-être de l'adoration, à l'heure de la prière, tu apportes un commentaire, ce qui vient distraire les personnes. Ça, c'est l'esprit de Balaam qui veut substituer la présence de Dieu dans son peuple. C'est ça, Balaam, le vêtement de Balaam, c'est le vêtement du faux prophète. On a en même temps chrétien et païen. Prophète et sorcier. Vous allez voir des gens où on a des prophéties authentiques dans l'église. Dit des choses claires. Mais les fondements ne sont pas Dieu. Ou bien ceux-là vont faire autre chose. C'est ça l'esprit de Balaam. Il y a tellement de fausses prophéties dans notre monde et dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de prophètes. Il y a l'esprit de Balaam, le vêtement de Balaam. Plusieurs personnes ont le vêtement de Balaam. Donc ce qu'ils recherchent, ce n'est pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas la puissance. La manifestation de la puissance de Dieu. Mais c'est un feu étranger qu'ils apportent. C'est l'esprit de Balaam. Les fausses prophéties sont faites à profusion juste pour de l'argent. Quand les gens commencent à profiter pour de l'argent, ils sont animés de l'esprit de Balaam. Quand tu commences à vendre des services dans l'église, même les choristes. J'ai vu les choristes même dans notre paroisse. Vous les invitez au pas premier, je vous demande combien est-ce qu'ils auront. On va leur donner quelle somme de francs, ils ne savent pas trop. Oh, le but de la louange, c'est quoi? D'un groupe de chorale, c'est quoi? C'est conduire le peuple dans l'adoration, c'est ça. Mais quand on appelle quelqu'un, première chose, c'est demander ce qu'on va lui donner en retour. C'est l'esprit de Balaam. Quand on dit un pasteur, il y a peut-être une situation compliquée. Il va demander où est mon carburant. Ah, c'est l'esprit de Balaam. C'est vrai. On a une situation à l'hôpital, c'est compliqué. Alors qu'on est en train de mourir, tu as dit devant ton carburant. C'est l'esprit de Balaam. Donc tu ne fais rien sans intérêt. Donc nous parlons également du vêtement de Judas.
J'avais moi le vêtement de Judas. Le vêtement de Judas,
c'est le vêtement de cupidité, du matérialisme. Ceux qui aiment l'argent plus que Dieu ont revêtu le vêtement de Judas. Et ce vêtement, ils disent parfois les églises, n'est-ce pas? Le vêtement de Judas.
Judas est quelqu'un qui a marché à la suite de Jésus. Il a vu Jésus déployer l'onction.
Le jour où Jésus a envoyé 70 disciples, Luc chapitre 10, et qui sont venus dire en ton nom, même les démons nous ont été soumis, Judas était parmi. Il a vu la puissance de Dieu, il a vu la gloire, il a vu l'onction se manifester. Mais au fond de lui, les motivations n'étaient pas bonnes. Dit que l'onction, c'est à quoi si tu n'as pas l'argent? Ça, Judas. Et vous savez pourquoi Judas a vendu Jésus? Qui sait pourquoi Judas a vendu Jésus?
Pour
non, pourquoi? La motivation était quoi? Avoir de l'argent, c'est le moment d'avoir de l'argent. Quand on vendait, il était le trésorier. Donc, de temps en temps, comme disait Jean chapitre 11, 12, donc de temps en temps, Judas piquait de l'argent. Le jour où on a cassé un parfum sur le pied de Jésus, Judas était en colère. Pourquoi? C'est parce qu'il aimait trop, peut-être, les pauvres. On dit de temps en temps, piquer de l'argent dans la caisse. Donc, il avait un peu d'argent, mais qu'est-ce qui l'a poussé à vendre son maître? Merci. Merci, c'est une analyse, oui. Il pense que Jésus est puissant, qu'on ne peut pas vendre Jésus. Nous en avons parlé du vêtement de Judas. Qu'est-ce qui a motivé Judas? Lisez acte 1, 18, 19. Vous allez voir les motivations de Judas. Acte 1, 18, 19. On a trouvé. On va lire ça, haute voix. Pardon, haute voix. On dit, y'a qui? Quand Judas marchait avec Jésus un jour, il arrivait quelque peu, il a vu champ à vendre. Il a vu champ, terrain à vendre. Directement, le gars a dit, mon frère, tu peux suivre ce Jésus, tu quittes la terre sans construire de maison. Tu peux suivre ce jeune garçon comme il t'amène au champ. Donc, pas toi pour avoir un terrain. Donc, il a vendu Jésus, il a pris cet argent pour faire comment? Acheter. Que j'ai convoité ce champ depuis des mois, des années, depuis 3 ans, que je marche derrière à la suite de Jésus. J'avais vu ce champ, je voulais acheter ce champ. Quand il a vendu Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti donner de l'argent pour le champ. Continuons le passage. Lisez bien le passage. On dit, il y a qui? Un champ, pas le salaire du crime. Dieu vendait Jésus pourquoi? Pour acheter. Donc le vêtement de Judas, c'est le vêtement du matérialisme. Paul dira plus Éphésiens, ces hommes ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de là. Ça, c'est aux Éphésiens, Paul va dire ça. Donc, je t'étais tellement focalisé sur les choses de la terre. C'est pas mauvais d'avoir une maison, un terrain. Mais ça prenait la place de Dieu dans le cœur de Judas. Continuons le passage.
Amen. Donc on voit clairement que quand Judas a vendu Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti voir le propriétaire du champ, il dit qu'enfin, de l'argent. Et plus tard qu'il a réalisé son péché, il a eu tellement mal. Il est parti se pendre dans ce champ qu'on appelait Akeldama. Amen. Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Le vêtement de Judas est porté par ceux qui sont dans l'église, qui ont vu la puissance de Dieu, qui ont vu Dieu se manifester, révéler, mais qui aiment le matériel, les plaisirs de ce monde plus que la puissance de Dieu. C'est le vêtement de Judas. Parfois, nous venons à un programme comme celui de la finalité, c'est quoi? C'est qu'enfin, que Dieu ouvre une nouvelle porte, que Dieu te donne tel ou tel autre objet. C'est ça le vêtement de Judas. Donc, quand la motivation, quand ce qui nous pousse n'est pas Dieu et sa gloire, mais les choses de ce monde, c'est le vêtement de Judas. Plus de personnes servent simplement de Dieu pour obtenir les choses, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il y a tellement de prédicateurs maintenant
qui prêche des choses que les gens aiment entendre. Tu auras un terrain, tu auras la voiture, tu voyageras. C'est ça, n'est-ce pas? C'est le message qui passe. Tu vas prospérer. C'est vrai, l'évangile peut prospérer, Jésus peut prospérer. Mais si tu aimes la prospérité plus que Jésus lui-même, tu es animé. Tu revêts le vêtement de Judas. Amen. Peut-être tu n'es pas d'accord.
Tu n'es pas d'accord? Dans le vêtement de Judas, c'est cet esprit qui nous amène à aimer les choses que Dieu donne plus que Dieu lui-même.
Donc nous servons de Dieu pour posséder les choses que Dieu donne. Plus de personnes, les motivations, les 40 jours qu'on fait tout le temps, 30 jours. Parfois la motivation n'est pas bonne. Enfin, parfois nous venons tous les jours, enfin peut-être à la fin, Dieu va débloquer ma situation. Enfin j'aurai ce terrain. Me donner cette maison, on va faire ci, on va faire ça. C'est pas mauvais, n'est-ce pas? Mais si ces choses prennent la place de l'adoration du Dieu véritable, tu es revêtu du vêtement de Judas. Quand nous aimons les choses du monde plus que Dieu lui-même, nous sommes revêtus du vêtement de Judas.
Amen. Amen. L'apôtre Paul dira plus loin. Il va dire à Romains chapitre 2, 24, dans notre manuel, le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens, pourquoi? Parce que les gens se maintiennent comme des chrétiens, mais aiment le monde, même plus que les mondes.
Donc quand les mondes, on les regarde, les gens qui ne viennent pas à l'église, on les voit faire leur cupidité, leur façon d'aimer l'argent, d'aimer le matériel. Les païens disent, si pour partir à l'église, être comme toi, ça ne vaut pas la peine. Donc les païens blasphèment Dieu à cause de leur attitude.
Amen. Le manuel, j'ai dit, on va aller rapidement parce qu'on va trouver le temps vraiment pour prier. Prier pour cette pandémie. Le vêtement de Simon le magicien.
Le vêtement qu'on aborde dans notre passage. Le vêtement de Simon, j'ai dit, le vêtement c'est un esprit, c'est un état d'esprit. Simon le magicien, acte chapitre 8.
Acte chapitre 8 nous parle de Simon le magicien. On dit que dans la ville de la Samarie, Simon le magicien étourdissait la foule par les miracles qu'il accomplissait. Donc partout on l'acclamait, n'est-ce pas? Il a été, c'était un occultiste, c'est le père de l'occultisme dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Quand on parle de la rose, on voit les pères fondateurs de l'occultisme sont les Simon le magicien. On dit Simon le magicien étourdissait la foule par les miracles qu'il faisait. Quand il a vu Pierre prêcher Philippe, quand Philippe est venu en Samarie, il a commencé à prêcher. Il a vu une puissance supérieure. Il a vu Philippe faire des miracles extraordinaires sans faire trop d'efforts comme lui. Simon commence à dire waouh, le gars a une puissance supérieure. Il a fait un semblant de conversion. Tout simplement parce qu'il voulait la puissance de qui? La puissance que Pierre avait.
Et il a fait un semblant de conversion parce qu'il voulait la puissance que Pierre avait.
Pourquoi est-ce que Simon le magicien voulait la puissance? Il ne voulait pas la puissance pour la gloire de Dieu. C'était pour son honneur personnel. Et on dit ici, le vêtement de Simon le magicien est caractérisé par quoi? Par la domination, par le pouvoir occulte.
Les gens qui veulent manifester un semblant d'onction. Les gens qui sont partis au Bénin, n'est-ce pas? Qui entrent dans des loges bizarres. Ils vont venir étonner des personnes. Qui vont faire tomber des personnes, mais ils savent au fond que ce n'est pas Dieu. C'est vrai que même Dieu fait tomber, n'est-ce pas? Dieu peut faire tomber des personnes. Mais les personnes vont maintenant faire comment? Faire la photocopie de ce que Dieu fait. Vous êtes là, Satan a la plus grande photocopieuse du monde entier. Donc tout ce que Dieu fait, Satan fait le semblant. Il fait exactement comme Dieu.
Amen. Donc, le vêtement de Simon le magicien caractérise par quoi? La domination par le pouvoir occulte. Le pasteur dit quoi? Il épatait les gens par les miracles qu'il accomplissait. Il fait un miracle pourquoi? Pour épater.
On dit Simon, waouh, tu es fort, tu es puissant. Et quand on disait ça, il était satisfait. Domination par les pouvoirs occultes.
Le vêtement de Simon le magicien est caractérisé par quoi? Par la manipulation des consciences. Tout le monde était tout lui à ce qu'il disait. Donc tout ce qu'il disait, on acclamait seulement par tout. Simon, Simon, Simon. Ce n'est pas Dieu et sa gloire, c'est Simon.
Quand un homme veut la puissance, parce qu'il faut qu'on le voie, il est animé de l'esprit de Simon le magicien.
Amen. Quand les gens veulent se faire un nom, n'est-ce pas?
De plus en plus, les hommes de Dieu veulent se faire un nom. C'est l'esprit de Simon le magicien. Il s'est fait un nom en Samarie. Et partout, quand tu es arrivé, il a mis sa photo à l'entrée de la ville. Simon le magicien, venez voir les miracles.
L'esprit de Simon. La ruse. On dit qu'il a fait un semblant de conversion en se faisant baptiser
pour suivre les apôtres. On dit, quand on lisait Actes chapitre 8, on dit que tout le, la Samarie crut, Simon le magicien crut, il se sépara plus de Philippe. Mais c'est quand Pierre est venu qu'on a vu les motivations de son cœur. Il est venu avec de l'argent, il a demandé à Pierre, s'il te plaît, prends cet argent et donne-moi cette puissance que tu as.
C'est ça Simon le magicien. Les personnes sont prêtes à acheter des pouvoirs occultes pour diriger même l'église. Il y a la plupart des leaders religieux. Ils sont prêts à faire des pactes avec Satan. N'est-ce pas?
Vivre se servir de Satan pour glorifier Dieu. Est-ce que c'est possible?
Les gens mettent leur monde dans n'importe quoi.
Et ils vont vous dire que c'est pour la gloire de Dieu qu'ils le font. Non. C'est pour la gloire de l'homme.
À un moment donné, les gens partaient au Bénin tout le temps, n'est-ce pas? Et plus en plus, les gens entrent dans l'occultisme. Ils viennent faire des pratiques pour les bouillir, épater. Vous allez voir que ces pratiques n'amènent jamais les gens au Seigneur, mais connectent ces personnes qui sont touchées aux hommes et non à Dieu.
Regardez les gens qui suivent parfois les gourous. Ils adorent plus le gourou que Jésus. C'est vrai. Ils vont vous parler de leur prophète, parler de leur pasteur, de leur homme de Dieu, mais jamais de Jésus. Parce que le but du vêtement de Simon, c'est quoi? C'est connecter le regard des hommes vers le pouvoir et non vers Dieu. C'est ce que Simon faisait. Donc partout, on parle de Simon, le Simon, Simon, Simon. Mais jamais de Dieu, jamais de Jésus.
Le vêtement Simon, le magicien, c'est par quoi? La corruption. Il a demandé à Pierre de lui donner le pouvoir pour de l'argent.
La corruption. Même quand dans les gangs, comment corrompre les personnes qui votent, c'est l'esprit de Simon le magicien. Tu vas aux élections, comment te dire que si tu votes telle personne, tu auras telle somme. Si tu votes telle, on va t'envoyer dans telle paroisse. C'est l'esprit de Simon qui remplit l'église contemporaine.
Amen. Même dans notre église, il y a l'esprit de Simon. Les gens sont animés par cet esprit-là. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est comme si Dieu avait laissé nos églises. Avait laissé nos temples. On le cherche, on crie. Parfois, il ne répond pas. Pourquoi? Parce que les fondations ne sont pas bonnes. Le fondement n'est pas bon. Dieu ne va jamais se glorifier où les bases ne sont pas saines. Le Dieu saint ne viendra jamais dans les compromissions et les addictions que les hommes font. Donc, nous pouvons faire des choses bizarres, floues et personne ne voit. Et après, on vient demander, Seigneur, manifeste ta gloire, il ne fera rien. Est-ce qu'on voit ça? Donc plusieurs églises des temps contemporains sont bâties sur des fondations qui ne sont pas bonnes. Voilà pourquoi Dieu se glorifie dans la plupart des églises.
Vous allez voir les églises, les gens ont grandi, ont vécu toute leur vie sans voir Dieu se manifester dans sa puissance. Tout n'est que ordinaire. C'est comme un club social. C'est les mêmes choses chaque jour. C'est la monotonie, la routine. Dieu ne s'est jamais révélé de façon claire. Comme disait 1 Corinthiens, chapitre 12, on dit que les gars avaient porté tous les dons, ils avaient reçu tous les dons de Dieu. Comme vous voyez, les gens comme Simon, comme Philippe, on dit que les descendants en Samarie, une seule personne a bouleversé toute la Samarie. Parce que le ministère était fondé sur des bases saines. Maintenant, pourquoi le même Dieu? Jésus a dit, Actes chapitre 13, Hébreux 13, 8, qu'il est le même hier au Dieu éternellement, c'est ça? Il dit qu'il n'a pas changé. Mais pourquoi maintenant les manifestations ont changé dans nos églises? Pourquoi les gens meurent sans voir Dieu? Parfois les vêtements ne sont pas clairs.
Le vêtement de Simon, c'est le vêtement de la corruption. On nous parle enfin du vêtement de Diotrephe.
Le vêtement de Diotrephe. De Diotrephe. 3 Jean.
Quand il y a 3 Jean, 3 Jean chapitre 3 Jean, autant pour moi, 9 et 10. Jean va dire ceci. Mais Diotrephe, qui aime à être premier parmi eux, ne nous reçoit pas, en tenant compte nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. C'est le vêtement de Diotrephe. Diotrephe est un leader au sein de la communauté, mais qui régnait l'autorité apostolique de Jean. C'est Jean qui avait fondé la communauté. Mais il y avait un monsieur appelé Diotrephe qui méprisait Jean. Nous devons dans nos églises, les gens ont qui méprisent ceux qui sont établis. Le pasteur parle, il contredit. Le pasteur dit, allez faire telle chose. Donc, Tamja a créé un lieu de culte, n'est-ce pas? C'était un peu comme ça. Donc, on a créé un lieu de culte, une extension de l'église quelque part. Diotrephe, puisque les gens ne pouvaient pas être là partout, Diotrephe était comme un leader dans cette église-là. Mais dans l'église, il méprisait l'autorité des apôtres. C'est comme si le pasteur Edouard peut dire, il a créé une annexe maintenant, quelque part. Il envoie un ancien, mais l'ancien, il avait dit qu'on n'écoute pas ce que le pasteur dit. C'est moi qui parle ici. Que les pasteurs ne sont pas tous la vérité, hein. Tout ce que le pasteur dit n'est pas vrai, hein. Les pasteurs là ne sont pas, sont des hommes comme nous, hein. C'est ce que Diotrephe faisait dans l'église. Il y a des gens qu'on a en église qui ne sont pas bénis, pourquoi? Parce qu'ils sont pas de temps à maudire ce que Dieu établit. Diotrephe méprisait l'autorité de Jean. Quand on parle de Jean, il dit, m'en fout de Jean. Jean envoie une lettre qu'on lise à l'église, il dit, on ne va pas lire ça dans l'église. Ça, Diotrephe. Jean envoie une lettre une fois pour parler de l'hospitalité dans l'église. Diotrephe a reçu la lettre, l'a confisquée. Il a dit, ne lis pas ça ici quand je suis là. Que Jean, c'est qui? Quand Jean souffrait pour construire l'église, il n'était pas là. Mais quand l'église a bâti, Diotrephe se manifeste. Et vous vous rassurez bien, mais écoutez ceci. Dieu m'a révélé une fois que la plupart de nos chrétiens ne sont pas bénis. Pourquoi? Parfois les pasteurs vont jeûner, prier pour les personnes, mais rien ne va se passer. Et Dieu m'a dit une fois, c'est parce que plusieurs chrétiens voient les pasteurs comme des simples enfants. Vous voyez un fidèle qui appelle le pasteur, mon enfant, mon fils. Il voit appeler le pasteur mon fils. Jésus était le grand frère de Pierre, vrai ou vrai? Ça va vous choquer ce que je veux dire. Jésus était le grand frère de Pierre. Christ est un papa barbu, un père. Mais Jésus le reprenait. Et que Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler. J'ai prié pour toi. Tout le temps, Pierre l'appelait mon Seigneur, c'est vrai. Jésus agissait comme vrai homme, mais Jésus n'a pas agi sur la terre comme Dieu. À Philippiens chapitre 2, nous parle de la doctrine à Kénose qui nous explique que Jésus s'est dépouillé de sa gloire pour agir sur la terre comme un simple homme. Mais ce qui a fait que les gens soient bénis par le ministère de Jésus, parce qu'ils voyaient en lui un père, un leader. Tant que tu ne verras pas en ton pasteur un père, un leader, il ne te bénira pas. Quelqu'un appelle son pasteur mon enfant, mon fils, viens prier pour moi. Il appartient dans le règne spirituel. Écoutez ceci. Dans le monde spirituel, il appartient au Père de bénir leurs enfants. Est-ce qu'on voit ça? Quand on disait Hébreu, on dit qu'Abraham a demandé à Melchisédek de le bénir, n'est-ce pas? Parce qu'il appartient au grand de bénir les pères. Maintenant, quand tu appelles le pasteur de ton fils, tu le vois comme ton fils, comme ton simple enfant. Prier pour quelqu'un, c'est le bénir en quelque sorte. Est-ce qu'on comprend ça? Quand demain quelqu'un prie pour moi, si tu en dis que bénis-moi, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il peut te bénir alors que tu le vois comme ton enfant? Ça se contredit. Peut-être que ça ne comprend pas bien ce que j'ai dit. Est-ce que ça se comprend? Tu vois le leader comme un simple enfant ou bien comme quelqu'un qui se débrouille simplement. J'aime les fidèles comme ça. Car c'est un petit, il est aussi à l'église, il se défend, il se débrouille. Après, tu es en danger, en situation compliquée, tu l'appelles, s'il te plaît, papa, prie pour moi. Mais au fond de toi, tu le vois tout comme ton enfant. Il va prier pendant des jours. Rien ne se passera. Tu as dit qu'il n'a pas l'onction. Tu vas le laisser partir chercher les gens partout. Rien ne se passera. Pourquoi? Parce que tu méprises l'autorité de ta vie. C'est ce que Dieu m'a dit. Tu peux ne pas croire si tu veux. Donc plusieurs personnes vont même prier toute une nuit, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui sont remplis d'eux-mêmes. Que nous sommes ici depuis des années. Depuis 1950. On a construit l'église quand tu connais. Tu es en quelle année?
tu dis ça, parce que tu vas prier toute la vie, rien ne se passera pour toi. C'est sérieux. Donc ta façon de voir celui que Dieu établit devant toi détermine ce qu'il fera pour toi. Ce que Dieu l'utilisera pour faire dans ta vie. Regardez le monde anglo-saxon. Vous voyez dans le monde anglo-saxon, les gens sont tellement bénis, visités, guéris, tout ça. Pourquoi? Parce que les gens ont appris dans ce monde à respecter ce que Dieu a établi. Dans notre église, tu peux parler mal d'un pasteur comme tu veux. Personne ne va t'impressionner, n'est-ce pas? Mais va dans le monde anglo-saxon, tu fais ça. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Donc tu parles mal, n'est-ce pas? Les gens vont te rectifier. Je suis sérieux. Va voir un anglophone, tu parles mal d'un des pasteurs nigérians là. Parle un peu mal d'eux. J'ai déjà fait ça. Les gars vont te mettre à ta place. Mais chez nous, si tu marches, on salit, on insulte même ton pasteur, tu t'en fous. Tu parles pour amplifier. Oui, c'est vrai. Il cherche seulement l'argent. Et après, tu viens t'asseoir, il va prêcher, ça ne va jamais te bénir. Est-ce que Dieu te faisait? Donc Jean parle, il discute. Jean envoie une lettre, il déchire. Et Dieu t'a mal fini. Donc pas le vêtement de Dieu t'a gardé par quoi? Par l'inhospitalité. Les gens viennent dans l'église au nom de Dieu pour prêcher. Dieu t'a refuse qu'on ne les accueille pas. Ils refusent. C'est comme le pasteur peut dire que j'ai invité un autre pasteur qui vient prêcher ici, n'est-ce pas? Les gens se lèvent pour dire que non, on ne veut pas ça ici à Tamdia. Que notre église ne veut pas ce genre de pasteur. Donc Jean envoie la personne, le gars refuse. Les méchants propos contre les frères dans le Seigneur et contre ceux qui servent Dieu. Donc Dieu voudrait envoyer les paroles méchantes contre les frères dans la foi et contre ceux qui servent Dieu. Quand tu sais Dieu, tu te parles comme si tu parlais à n'importe qui. C'est ce qu'il dit tout à l'heure, n'est-ce pas? J'insiste là-dessus. Ta façon de voir un homme de Dieu détermine ce qu'il fera pour toi. J'ai vu ça avec les fidèles chez nous. Toute personne qui respecte ton autorité, quand tu pries pour lui, Dieu se manifeste. Mais toute personne qui te méprise, tu pries pour lui même 2 jours, rien ne se passera. Rien. Il ne recevra rien. La méchanceté à outrance. Dieu t'a refusé de prendre la main d'association. C'est comme les pasteurs qui ne veulent pas d'autres églises. On dit qu'il y a réunion de prière, il comprend qu'il y a un pasteur d'une autre église, il dit qu'il ne vient pas. Il veut la manque d'association. Et c'est l'esprit de Dieu très. Le vêtement de Dieu très. Il y a une rencontre de prière, n'est-ce pas? Et maintenant tu entends qu'il y a un pasteur qui vient d'une autre église. Depuis quand notre église se mélange avec les autres églises, avec ces églises-là, tu ne viens pas, c'est l'esprit de Dieu très. C'est cet esprit qui érige les barrières entre les églises, entre les serviteurs de Dieu. Nous disons que c'est le même Dieu, n'est-ce pas? Mais on dit aux rencontres de prière. On dit qu'il y a tel pasteur, telle dénomination sera là. Non, non, nous ne traitons pas avec eux. Nous sommes seulement du SEPKA. Ce n'est pas SEPKA. On ne veut rien comprendre. Le refus de la main d'association. SEPKA est biblique. Eh bien aimé. Les gens qui ont invité certains pasteurs dans nos églises, ils sont fâchés, n'est-ce pas? C'est le refus. C'est l'esprit de Dieu trèfle. Il faut l'écouter. S'il prêche un évangile, quel compte d'évangile, tu peux dire que non, son évangile ne tient pas, je ne viendrai pas. Mais refuse parce qu'il n'est pas de ton église, c'est Dieu trèfle. C'est le vêtement de Dieu trèfle. On n'est pas enfin le scandale. Il a occasionné la chute de plusieurs frères dans l'église. C'est l'esprit de Dieu trèfle. Ce qui amène les gens à chuter dans la foi, à rétrograder. Qui scandalise les autres. Quand un homme de Dieu ou bien un fidèle pour des actes qui scandalisent, il a le vêtement de Dieu très. Vous entendez un homme qui a fait un message chaud. Après, vous entendez que le même homme a détourné une jeune fille. C'est l'esprit de Dieu très. Et le même homme qui prêchait le feu a demandé peut-être de l'argent pour faire certaines choses. Ça scandalise. Quand les païens entendent, ils disent, vous parlez de quoi là? Quel Dieu? Donc ça scandalise, plus de personnes vont régresser, vont rétrograder et plusieurs vont abandonner la foi. Imaginez chez nous, on vient au plateau, on dit que le gars qui parlait tout le temps ici là, il a fait telle bêtise. Il a enceinté une jeune fille. Est-ce que les païens peuvent encore croire? Les gens qui avaient commencé à dire oui, peut-être Dieu est vrai, est-ce qu'ils pourront davantage tenir? Non. Et nous devenons une pierre d'achoppement. C'est ça l'esprit de Dieu. J'ai vu des gens comme ça à l'église. Ils parlent de Dieu, ils parlent de Dieu. Quand une petite fille passe, les sentiments de Dieu disparaissent de son esprit. Frère, le monde ne veut pas seulement qu'on parle de Dieu. Le monde veut qu'on vive Dieu. C'est ça, n'est-ce pas?
Quand Jésus dit qu'il allait faire des nations des disciples, c'est pas seulement dire que voilà ce que Jésus veut. Il faut vivre ce que Jésus veut. Ça peut se faire des disciples que parler. Amen. Amen. Donc l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui amène le scandale. Parce qu'il ne faut pas parfois parler mal des pasteurs. Un frère m'a dit que tu parles à droite dans ta zone, tu parles du pasteur, on peut te taper. Parce que les pasteurs ont des membres commis des scandales, des bêtises. On sait tout le temps, ils sont au bar, ils cherchent des femmes. N'est-ce pas? Mais quand je viens là-bas, tu dis que je suis pasteur. Je dis que, oh, c'est un autre, hein? Oh, c'est vous. Ça, c'est l'esprit de Dieu, trèfle. Eh bien aimé. Et c'est une barrière de l'évangile. Tu peux prêcher, enseigner, faire de bonnes choses. Mais quand tu as commis un scandale que tu as commis, dépasse même 20 messages que tu as prêché. Ça part plus fort. C'est vrai. La fin de que si vous entendez que j'ai fait un truc peut-être bizarre, tout ce que j'ai dit, ça c'est facile pour votre esprit. Vous allez m'envoyer l'action méchante que j'ai posée. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça le leader. Quand tu es un leader, les gens sont plus prompts à voir tes défauts que tes bonnes actions. Donc tu peux enseigner, on y campagne d'évangélisation, tu es là. On dit message plein air, tu es là. Qu'une sortie de diaconie, tu es là. Mais le jour où tu vas faire une mauvaise action, ça va détruire tout ce que tu as construit. C'est vrai. Et tu vas devenir comme Dieu prêt. À cause de toi, plus de personnes vont blasphémer. Amen. C'est pourquoi demain on va continuer à dire le vêtement de. On va parler d'autres vêtements, le vêtement divin. Le mauvais vêtement de ce jour, c'est tout ce qui nous empêche de donner gloire à Dieu, pas le service que nous rendons. Pour la finalité, tout ce qu'on fait dans l'église, c'est quoi? C'est donner gloire à Jésus. C'est qu'en voyant Jésus, en attendant le Jésus-Christ, que les personnes fléchissent genoux et lui donne gloire. Or le vêtement, tous les vêtements qu'on a cités aujourd'hui sont les vêtements qui t'empêchent, qui amènent les païens à nous remettre Jésus en question. Donc on va prier ce soir pour que Dieu déchire tout mauvais vêtement dans nos vies. Tout penchant charnel qui t'empêche. Même les gens qui disent non, on ne peut pas vivre sans faire ça. C'est possible, tel Jésus est, tel nous sommes supposés être. Donc pour vivre exactement, servir Jésus comme lui-même l'a servi sur la terre. C'est possible. Je vois tous les vêtements qui nous ont empêchés de servir Jésus comme il veut. Je vois que c'est une debout maintenant. On va prier contre ces mauvais vêtements. Tu vas te lever contre tout mauvais vêtement. Tu vas prier premièrement et va dire que tout vêtement de Balaam dans ta vie soit déchiré ce soir au nom de Jésus. Voyez que le vêtement de Balaam, c'est le vêtement de la cupidité. Commence à prier, commence à parler au Seigneur. Tu ordonnes au vêtement de Balaam que tout sémant de cupidité, commence à parler à toi-même. Tout vêtement de cupidité dans ma vie me libère. Toute mauvaise motivation au service de Dieu me libère. Je refuse de servir Dieu pour un gang sordide. Je refuse de servir Dieu pour de l'argent. Je refuse de servir Dieu pour le matériel. Commence à prier. Refuse de suivre Dieu pour 30 jours, pendant 30 jours, parce que tu vas obtenir un bien matériel. Jésus est fidèle, il peut te donner au-delà de tout ce que tu penses ou imagines. Il a dit que quiconque aura laissé tout pour me servir recevra non seulement le centuple ici sur la terre, mais la vie éternelle en plus. Donc crois que tu es fidèle pour te bénir pendant que tu es à sa suite et refuse de te servir de son nom pour avoir les choses terrestres, éphémères, temporelles. Et déclare que tout vêtement, que le vêtement de Balaam dans ta vie soit consumé au nom de Jésus. Bien mieux que tu ouvres la bouche, que tu parles au Seigneur. Parle-toi en tes propres mots. Que le vêtement de Balaam et que le vêtement de Balaam, c'est le vêtement de la cupidité. On t'appelle prier directement, tu vois seulement l'argent. On t'appelle parler de Dieu, tu vois seulement l'argent. On est capable d'évangélisation, tu vois l'argent. Refuse ce vêtement. Jésus a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Dieu est puissant et fidèle pour donner à chaque ouvrier. Si tu es ouvrier, commence à revêtir la mentalité d'ouvrier. Si tu es ouvrier, si tu es ouvrière, tu es puissant pour te donner ton salaire. Parce qu'il l'a dit. C'est pas à toi de te battre pour avoir ce salaire. Il est fidèle. Dis non aux vêtements de Balaam. Dis non aux vêtements de Balaam. Dis non aux vêtements de Balaam. On a parlé du vêtement de Judas. Le vêtement des biens matériels. Venir ta mère a émis les biens matériels. Manger, boire, construire des maisons. C'est le vêtement de Judas. Construire la maison n'est pas mauvaise. Mais quand c'est ta motivation dans l'œuvre de Dieu, tu es animé du vêtement de Judas. Commence à prier. Dieu Seigneur, enlève de ma vie le vêtement de Judas. Ôte le vêtement de Judas de ma vie. Donne-moi de t'aimer plus que le matériel. Donne-moi de t'aimer plus que les constructions. Donne-moi de t'aimer plus que les choses que tu donnes. Parle au Seigneur bien-aimé. Demande qu'il t'accorde la grâce de l'aimer plus que les choses qu'il donne. L'un des derniers noms de temps, c'est que les gens aiment les choses plus que Dieu. Refuse d'aimer les choses plus que Dieu. Refuse les choses que Dieu donne plus que Dieu lui-même. Prie ce soir. David pria en son temps. Il dit, oh Dieu, donne-moi un cœur pur. Un cœur pur, veut dire Seigneur. Un cœur qui t'aime plus que le matériel. Un cœur qui t'aime plus que les biens de ce monde. Un cœur qui t'aime plus que tout ce que le monde miroite à mes yeux. Prie ce soir. Et demande celui qui t'accorde la grâce. Au nom de Jésus. On a parlé du vêtement. Du vêtement de Simon le magicien. Ceux qui ne veulent pas payer le prix pour l'onction, mais qui veulent les raccourcis de l'occultisme et autres, refusent toute mauvaise motivation. Ceux qui veulent la puissance pour impressionner dans l'église, pour impressionner les fidèles comme Simon le magicien, refusent de quelqu'un qui impressionne. Refuse de connecter les hommes à toi, mais de les connecter à Dieu. Nous ne sommes pas morts pour les hommes, c'est Jésus qui est mort pour eux. Prie ce soir, dit Seigneur, accorde-moi la grâce de manifester la puissance, non pour ma gloire, mais pour conduire le monde à toi. Bien-aimé, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Prie contre le vêtement de Diotrephe. Ce vêtement qui dit d'hospitalité. Ce vêtement d'insubordination. Qui fait que tu ne peux respecter aucune autorité établie par Dieu. On dit que voir le pasteur, tu t'en fous pas mal. Voir l'ancienne église, tu t'en fous. Refuse ce vêtement-là. Ce vêtement qui ne veut pas respecter ce que Dieu a établi. Ce vêtement qui t'amène à mépriser n'importe qui. Dis Seigneur, estime de ma vie. Le vêtement de Diotrephe. Enlève de ma vie le vêtement de Diotrephe. Au nom de Jésus. Parce que le vêtement de Diotrephe, c'est le vêtement d'inhospitalité. Quand on n'est pas accueilli d'autres personnes, quand tu entends quelqu'un dire que je suis d'une autre église, tu te fâches. Refuse cette façon de voir. Ce vêtement, c'est le vêtement qui nous empêche de tendre la main d'association. On dit programme de prière, tu entends qu'il y a un pentecôtiste, tu ne viens pas. Refuse cette façon de faire. Demande au Seigneur qu'il envoie, qu'il consume dans ta vie tout mauvais vêtement. Qu'il consume tout mauvais vêtement. Qu'il consume tout mauvais vêtement. Qu'il enlève les motivations impures, malsaines de ton cœur. Demande au Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Enlève de ma vie tout ce qui ne te donne pas gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, j'ai envie, quand je prie tout à l'heure à la maison, Dieu me faisait comprendre que le coronavirus, c'est un esprit qui vient droitement des anges de l'enfer pour semer la confusion sur la terre. Et Dieu me faisait comprendre si les chrétiens prennent conscience de cette vérité. Et prie, ils vont soumettre ce virus. Amen. Voilà ce que j'ai reçu quand je priais. Donc j'ai envie qu'on prie ce soir pour déclarer que le coronavirus ne nous tuera pas, ne tuera pas les membres de nos familles. ne tuera pas les membres de cette nation. Au nom de Jésus, élève la voix, commence à parler. Commence à parler. C'est un esprit de confusion totale. Dis, tu ne tueras personne dans ma famille. Tu ne toucheras pas mes enfants, à mes frères, à mes soeurs, à mes voisins, aux membres de l'église. Tu ne tueras personne dans cette nation. Nous soumettons ton pouvoir. Commence à parler à Dieu. C'est plus une affaire seulement physique. Les gens pensent seulement physique. C'est plus une manifestation d'un truc physique. Mais derrière lui se cache le projet global de destruction de Satan. Parle ce soir. Et tu commences à soumettre son pouvoir. Prie afin que tu livres ce virus en spectacle. Que Dieu détruise son pouvoir sur la vie des hommes. Parle ce soir. Pourquoi Dieu nous empêche de nous rassembler en frères et sœurs, de nous serrer les uns les autres, de nous embrasser? La Bible dit embrasser les uns les autres par un saint baiser. Mais lui refuse ça. Lève-toi, c'est un esprit, c'est lève contre la volonté de Dieu. Commence à prier, commence à parler ce soir. Dis, je dis non, je te soumets. Coronavirus, je te soumets. Je soumets ton pouvoir, je soumets ton autorité. Tu ne tueras personne dans cette nation. Tu ne tueras personne dans ma famille. Tu ne tueras personne. Au nom de Jésus, j'anéantis ton pouvoir. Je te réduis à néant. Tu ne tueras personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as cette population immunisée contre toi. La nation camerounaise immunisée. Tu ne tueras personne. Tu ne tueras personne. Nous anéantissons ton pouvoir. Coronavirus, nous t'anéantissons. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parle ce soir, bien-aimé. Parle, parle, parle. Au Seigneur, lève-toi. Je suis même clairement monté dans une vision. Comme un esprit venait de l'enfer pour détruire les hommes. Les scientifiques sont en train de travailler, c'est vrai. Mais la solution vient de l'église. Commence à parler ce soir. Dis-nous, détruisons ton effet, ta puissance sur les hommes. Tu ne tueras personne dans cette nation. Tu ne tueras pas les membres de nos familles. Tu ne tueras personne au nom de Jésus. Prie afin que Dieu établisse son règne dans nos vies, dans cette nation. Que Dieu établisse son règne. Qu'il établisse son règne. Au nom puissant de Jésus, déclare que le règne de Dieu, que le règne de Dieu se manifeste et soumette ce virus. Prie afin que Dieu se serve de ce virus pour attirer le cœur du grand homme, pour montrer aux hommes leur vulnérabilité, leur impuissance, leur limite, leur faiblesse, et attirer leur cœur à Jésus. Prie afin que Jésus se serve même de cette pandémie pour parler aux grands hommes, pour parler aux scientifiques, pour parler aux politiques, pour amener le grand nombre à lui. Que les gens réalisent qu'ils sont impuissants, qu'ils sont que des hommes limités et qu'ils ont besoin de Dieu. Parle ce soir, parle encore au Seigneur et fais-lui confiance. Fais-lui confiance. L'église, son peuple qui a invoqué son nom, s'humilie, prie, cherche sa face, se détourne ses voies, il pardonnera son péché et il bénira son pays. Au nom de Jésus, Père, merci encore parce que tu es vivant et puissant. Nous célébrons ta présence parmi nous. Nous te rendons gloire et te supplions, Seigneur, afin que par ta puissance, tu consumes dans nos vies tout vêtement qui ne te donne pas gloire. Dans le nom de Jésus, que le vêtement de Balaam, le vêtement de la cupidité, soit consumé par ton feu. Au nom de Jésus. Père, que le vêtement de Balaam, que toute sémence de cupidité dans nos vies, sèche pas ta puissance. Sèche pas ta puissance. Au nom de Jésus, que le vêtement de Judas, le vêtement de l'amour des biens de ce monde, Père, soit consumé par ta puissance. Soit consumé de nos vies. Au nom de Jésus. Père, nous te supplions ce soir, accorde-nous la grâce de t'aimer plus que les choses que tu donnes. Accorde-nous la grâce, Père, de t'aimer plus que les biens de ce monde. Nous te supplions, Jésus, afin que le vêtement de Simon le magicien, le vêtement de gloire et de l'honneur personnel, Père, dans nos vies, soit consumé par le feu de ta puissance. Au nom de Jésus, nous déchirons, Seigneur, sur nos vies, le vêtement de Simon le magicien, dans le nom de Jésus. Le vêtement de Diotrephe est consumé par ton feu, au nom puissant de Jésus. Père, consume tout ce qui n'est pas de toi et libère-nous de tout ce qui nous empêche de te servir efficacement, puissamment, dans le nom de Jésus. Prends le total contrôle. Nous soumettons, Seigneur, ce pays à ta seigneurie. Nous déclarons, Seigneur, que tu es Seigneur. Toi qui as dit, Seigneur, que tu tiens nos vies en tes mains. Toi qui as dit que nous sommes la prunelle de tes yeux. Toi qui as dit, Seigneur, que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Et que de nos yeux, nous regarderons et verrons la rétribution des méchants. Père, manifeste-toi dans cette nation. Que personne ne tombe, Seigneur, sous ce virus. Au nom puissant de Jésus. Père, nous déclarons ce virus, ô Dieu vivant, rencontre ta puissance et perde sa puissance sur les hommes. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons qu'aucun membre de nos familles, aucun membre, Seigneur, de cette nation, de nos églises, ne mourra tué par ce virus. Au nom puissant de Jésus, prends le total contrôle et anéantis son pouvoir. La peur, Seigneur, que ce virus a créé dans les cœurs, nous déclarons cette peur maintenant. Père, Seigneur, son emprise sur les hommes. Au nom puissant de Jésus, prends le total contrôle et sers-toi de cette pandémie pour davantage donner gloire à ton nom. Père, ta parole déclare que la terre entière sera remplie de la connaissance de ta gloire. S'il te plaît, dans ton amour, dans ces temps difficiles, remplis cette nation de la connaissance de ta gloire. Sers-toi de cette pandémie pour tourner le regard des hommes, même les plus incrédules, au pied de la croix. Sers-toi, Seigneur, pour te révéler à chaque personne, aux membres du gouvernement, aux autorités, à quelque niveau que ce soit. Révèle-toi, montre leur paix, leur impuissance, leurs limites et leurs faiblesses, et attire leur cœur à toi, dans le nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu es puissant. Tu déclares que si deux d'entre nous se mettent en accord pour te demander quelque chose, tu leur donnes cette chose. Que toute la gloire te revienne pour l'exaucement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Je sois comme toi.